RFJ Info.
Le journal de Mathieu Schaffner.
Bonjour, il a été l'un des fers de lance de la lutte pour l'indépendance du Jura. Marcel Boya est mort hier en Espagne à l'âge de 90 ans. Le cofondateur du Front de Libération Jurassien se qualifiait de terroriste. C'est la victoire d'une association. Citoyen Responsable Jura s'est battu durant 6 ans contre le projet de géothermie profonde à Outzorn. Vous entendrez le soulagement de son chef de file au lendemain de la décision du gouvernement jurassien de stopper ce dossier. La justice militaire pointe une erreur humaine dans le crash d'un FA-18 de l'armée suisse en août 2016. Le contrôleur aérien aurait donné de mauvaises indications au pilote. L'accident avait fait un mort. Le soleil poursuit son règne dans le ciel de la région. Les nuages vont se faire très rares cet après-midi et demain. Le mercure pourrait lui dépasser la barre des 20 degrés. Le Jura a donc perdu une figure de son histoire. Marcel Boya est décédé hier à l'âge de 90 ans. Il était hospitalisé en Espagne. Le militant jurassien a été inhumé hier dans son village d'adoption de Demiel, dans le centre du pays. Marcel Boya a été le cofondateur du Front de Libération Jurassien en 1962. Retour sur sa vie avec Raphaël Chalvera.
Avec le FLJ, Marcel Boya a mené des actions de vandalisme, marquant la révolte face au canton de Berne durant les années de lutte pour l'indépendance du Jura. Des fermes ont notamment été incendiées aux Franches-Montagnes. Ces terrains agricoles avaient été acquis par l'État bernois et revendus à la Confédération. L'armée suisse envisageait d'y construire une place d'armes. Arrêté en 1964, Marcel Boya a été condamné en 1966 à 8 ans d'emprisonnement. En 1967, il est parvenu à s'évader de la prison de Crêtelongue en Valais, puis s'est rendu en Espagne. Le général Franco a refusé de l'extrader et lui a offert l'asile politique. Marcel Boya s'est ainsi installé dans le village de Demiel et s'est engagé dans le commerce de denrées alimentaires. Il s'est ensuite adonné à la peinture à sa retraite. Le militant est revenu à quelques reprises dans le Jura. Sa dernière apparition dans la région remonte à novembre 2019. Marcel Boya avait accompagné des opposants à l'implantation d'éoliennes lors d'une conférence de presse sur les hauteurs de Delémont.
Marcel Boya, qui a souvent été qualifié de terroriste, il n'a jamais botté en touche, comme dans cette archive de 2014.
C'est normal, on l'était. Si on l'était, parce que si tu commences à foutre des bombes, mais il faut le faire des fermes, si on était des terroristes, c'est vrai, moi je l'admets, hein, c'est juste, ça joue, ça tourne. Si, si, et je ne me le repens pas, tu vois, non, au contraire. Si j'aurais 30 ans, et la cause jurassienne serait comme elle était dans son temps, moi je recommencerais tranquillement. Si, bien sûr, pourquoi pas. Il ne faut jamais laisser gagner l'injustice. Roland Béglin, il a un peu tourné sa chemise, il a vu qu'à la fin, la cause était juste ce qu'on a fait. Hein. Il a peut-être un peu menti en disant qu'il m'aurait aidé à mon évasion, tu vois. Mais moi, je le comprends parce que j'ai vu dans ma vie le vrai intellectuel. Toi, tu dois le mettre dans la tête. Hein. Le vrai intellectuel, il a des idées formidables. C'est fantastique les idées, mais il n'a pas de poil au cul. Jamais un intellectuel fait un coup. Ils sont tous la prousse. J'en ai fait l'expérience. Hein.
Marcel Boya a donc marqué l'histoire du Jura. Le secrétaire général du mouvement autonomiste jurassien et rédacteur en chef du Jura Libre, Pierre-André Comte.
Je crois qu'on doit classer Marcel Boya parmi les acteurs historiques de la libération de la patrie jurassienne. Acteurs sans lesquels notre République n'aurait jamais vu le jour. Boya a combattu pour la liberté de son pays, sans peur et avec la conviction au cœur et à l'esprit que seul un combat déterminé contre l'injustice faite à son peuple permettrait à celui-ci de vaincre l'adversité. Je me rappelle lorsqu'il est revenu d'exil en 97 pour une visite au Jura, Marcel Boya a été salué par une foule reconnaissante. Il défilait dans les rues et il a reçu dans la rue l'hommage sonore des milliers de jurassiens qui l'accueillaient. Donc Marcel Boya s'en va en laissant à ceux qui l'ont connu le souvenir d'un homme qui nourrissait une passion débordante pour le Jura.
Ces actes de violence quand même ont aussi été condamnés dans la région même. S'il a marqué l'histoire du Jura, il n'a pas fait quand même l'unanimité.
Quand il parlait de son activisme au sein du Front de Libération du Jura, Marcel Boya dit dans son livre intitulé « Sans mort, l'émergence d'un État », il dit « Il m'en a coûté d'apporter ma contribution personnelle à l'émancipation du Jura. Il y a laissé famille, commerce, maison, situation, patrie, langue et plusieurs années de liberté. Ce bien précieux pour chaque être humain, précise-t-il. » Donc Marcel Boya a payé pour ce qu'il a fait. Et on doit reconnaître aujourd'hui que sans l'action du FLJ, la question jurassienne n'aurait pas été débloquée comme elle a pu l'être dans les années 60-70.
Le soulagement après 6 ans de combat, c'est le sentiment qui domine aujourd'hui dans les rangs de l'association Citoyens Responsables Jura, principal opposant au projet de géothermie profonde à Haute-Saône. Elle a pris connaissance hier en fin de journée de la position du gouvernement jurassien, l'exécutif qui veut mettre un terme à ce dossier. Bonjour Jack Aubry.
Bonjour Mathieu Schaffner.
Vous êtes le chef de file de cette association CRJ, Citoyens Responsables Jura. Très honnêtement, aujourd'hui, vous devez vous pincer pour croire à cette décision?
En fait, ça fait quelques fois qu'on s'est déjà pincé. Malheureusement, il y a toujours eu un rebondissement. Mais cette fois, je crois qu'on est vraiment du bon côté. Et je tiens déjà à féliciter toute mon équipe qui a vraiment travaillé d'arrache-pied. Et puis, je tiens aussi à souligner que les personnes qui nous ont soutenus, que ce soit au niveau du Parlement ou des industriels ou des personnes publiques, ont aussi joué leur bateau aussi là-dedans et c'était très bien. Par contre, je tiens aussi à souligner que le gouvernement a rattrapé une erreur de l'ancien gouvernement et je les félicite pour ça. C'était pas une décision facile à prendre. Ils avaient tous les arguments pour, ça a pris du temps. Ce que je prends en note, c'est qu'il a fallu attendre le départ de Charles Juillard pour qu'une décision soit enfin prise. Est-ce que c'est un hasard?
Le combat qui a été long, hein, 6 ans, vous le rappelez dans un communiqué, combat acharné, vous le dites aussi. Est-ce que c'est une victoire personnelle?
Pas du tout, non, c'est une victoire de groupe, c'est une victoire, on a tous toujours été soudés depuis les années, et puis c'est une victoire qu'on a beaucoup travaillé pour arriver à cette chose-là, et le truc, je vous entends très mal, je suis désolé, hein, avec le téléphone, ça coupe sans arrêt, donc non, on a travaillé nos dossiers, on a toujours, tout ce qu'on a dit était vérifiable, on n'a jamais rien inventé, on s'est basé sur des faits concrets, et puis ça c'est très important.
Victoire collective, vous le dites, victoire de la voix populaire aussi, vous montrez qu'en se mobilisant, qu'en croyant à ces idées, on peut déplacer des montagnes?
Bien sûr, il faut avoir des arguments derrière, évidemment, on peut pas déplacer des montagnes si on a un dossier qui n'est pas solide. Là, on l'avait, on l'a eu depuis le départ. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir la suite, comment est-ce qu'elle va se dérouler. On espère quand même que Géoénergie Suisse, avec tout ce qui est arrivé ces derniers temps, n'aura pas le toupet, si je puis me permettre comme ça, de réclamer encore des indemnités, puisque je tiens quand même à souligner que dans le plan spécial des différents documents, le gouvernement a toujours un petit peu le pouvoir. Si je prends un communiqué de presse, le gouvernement peut aiguiller une révision de son développement, voire un arrêt temporaire ou définitif du projet si quelque chose ne rentre plus en ligne de compte. Et on pense qu'après les révélations du rapport qu'on n'a pas eu accès, il y a des éléments clés en plus de ceux qu'on avait déjà amenés auparavant.
La décision du gouvernement jurassien de stopper ce projet de géothermie à Haute-Saône, est-ce qu'elle met un terme aux activités de votre association Citoyens Responsables Jura?
Non, pas du tout. On va continuer à suivre le dossier. Et puis après, on verra comment ça se passe une fois que l'enterrement aura lieu, entre guillemets. Et voilà, mais nous, on va continuer à suivre un petit peu ce dossier de A à Z, comme on l'a toujours fait, avec aussi les rebondissements peut-être qu'il y aura, on ne sait pas. Hein. On a toujours été, en 6 ans, on en a vu des rebondissements. On pensait toujours que la victoire était proche. Et puis voilà, mais je crois que cette fois-là, la décision est bonne. Et je tiens encore vraiment à féliciter le gouvernement pour avoir su refaire quelque chose de bien dans la décision qui a été adoptée en 2015.
Donc en quelque sorte, après avoir été l'opposant du gouvernement, vous devenez son allié aujourd'hui ?
Alors, je n'ai jamais eu d'animosité avec le gouvernement tel qu'il soit, et voilà, simplement c'était un combat, ma foi, qu'on a essayé de mener du mieux qu'on peut, dans les règles du jeu. Certains n'ont pas joué les règles du jeu, et quand je dis certains n'ont pas joué les règles du jeu, je pense à Géoénergie Suisse qui a à chaque fois changé les règles, et à un moment donné, ça ne peut plus aller si les règles ne sont plus les mêmes qu'au départ. Et qui est arrivé maintenant. J'ai plus grand-chose d'autre à dire par rapport à ça.
Jack Aubry, chef de file de l'association Citoyens Responsables Jura, bien merci d'avoir réagi en direct sur RFJ.
Je ne vous entends pas très bien.
Belle journée à vous, merci. Une erreur humaine serait à l'origine de la mort d'un pilote de FA-18 il y a 4 ans en Suisse. La justice militaire indique ce matin être arrivée au terme de son enquête. Elle soupçonne d'homicide par négligence le contrôleur aérien qui avait été en contact avec le militaire. L'avion de l'armée suisse s'était écrasé le 29 août contre une montagne de la région du Soustonne. L'accident était survenu peu de temps après le décollage de l'appareil. Le porte-parole de la justice militaire, Georg Fritz.
Il est reproché au contrôleur aérien de lui avoir indiqué de monter à une altitude de 10 000 pieds, environ 3 000 mètres. Or, les directives pour cette région sont de 15 000 pieds, soit environ 4 500 mètres. Il est donc soupçonné de lui avoir donné une altitude de vol trop basse, qui ne pouvait pas garantir d'éviter tout obstacle dans cette région. En conséquence, le pilote est entré en collision avec la montagne.
Des propos recueillis et traduits par Jérôme Favre. Les avalanches ont coûté la vie à 5 personnes durant cet hiver. C'est le bilan le plus bas enregistré depuis 60 ans, selon l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches. Il indique aujourd'hui que toutes les victimes étaient des sportifs qui se trouvaient en terrain dangereux. Ces dernières années, la moyenne s'élevait autour de 18 victimes à la fin mars. Le marché de l'emploi n'est pas épargné par la crise du coronavirus. Le taux de chômage a progressé de 0,4 points en mars en Suisse. Il s'établit dorénavant à 2,9%. Il s'agit du taux le plus élevé depuis février 2018. La tendance est à peine moins marquée dans le Jura. Une augmentation de 0,2 points est constatée. Le taux de chômage s'est ainsi porté à 4,1% de la population active à fin mars. Dans le détail, il est de 4,2% dans la vallée de Delémont, 4% en Ajoie et 3,7% dans les Franches-Montagnes. Et depuis le 1er mars, près de 1 700 entreprises ont déposé un préavis de réduction d'horaires de travail dans le Jura. Au niveau national, ce chiffre grimpe à 131 000 demandes. À l'étranger, Boris Johnson reste hospitalisé. Le Premier ministre britannique est sous étroite surveillance aux soins intensifs. Les autorités précisent aujourd'hui que l'homme politique a reçu de l'oxygène, mais qu'il ne se trouve pas sous respirateur. Âgé de 55 ans, Boris Johnson a été diagnostiqué positif au coronavirus. Il a été hospitalisé hier. Cette lueur d'espoir en Chine, pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, le pays n'a recensé aucun décès au cours des dernières 24 heures. Les autorités en ont fait état ce matin. Les nouveaux cas de contamination sont en diminution depuis début mars. Et puis les chiffres qui sont aussi à la baisse au Tessin. 9 personnes ont perdu la vie en raison du coronavirus lors des dernières 24 heures. C'est ce que les autorités ont annoncé ce matin. Elles faisaient état de nombre à 2 chiffres tout au long de la semaine dernière. Le Tessin qui enregistre pour le 4e jour consécutif moins de 100 nouvelles infections en 24 heures. C'est une première depuis la mi-mars.
Vous écoutez RFJ, les 12h28.
Mon quotidien change. Je témoigne.
Vous l'attendez chaque midi avec impatience. Notre rituel de vous donner la parole se poursuit aujourd'hui. Qu'est-ce qui change dans votre quotidien cette période de pandémie? C'est la question qu'on vous pose et celle que Cyprien Lovi a posée à notre collègue Stéphanie.
Eh bien, ce qui change le plus, c'est au niveau de ma coupe de cheveux. Figurez-vous que j'avais un rendez-vous chez ma coiffeuse pour refaire mon tie and dye, mon joli blond, mon carré effilé, que personne d'autre ne peut refaire sauf ma coiffeuse. Et voilà, je suis obligée d'attendre, je ne sais pas combien de mois, je ne ressemblerai plus à rien, c'est la catastrophe.
Mais votre copain, votre mari, votre maman, votre papa, non?
Non, il n'y a que ma coiffeuse, c'est quelque chose qui doit être fait par un professionnel. Non mais vous avez vu quand même cette magnifique coupe de cheveux que j'avais.
Oui, c'est fantastique, pour faire de la radio c'est parfait.
Oui, justement, radiovision, Cyprien, radiovision. Non, et même vous, hein. Non, n'y pensez même pas.
C'est vrai?
Non.
Pourtant j'aurais été prêt à le faire. Hein.
Je sais que vous seriez sacrifié, vous auriez empoigné les ciseaux, mais non, c'est hors de question.
Donc la morale, c'est que les blondes vont disparaître.
Les blondes vont complètement disparaître, on va se rendre compte qu'en fait, c'est des vulgaires brunes.
Et voilà la confidence de notre collègue Stéphanie, on risque d'en entendre parler encore un petit moment, on se réjouit de la revoir d'ailleurs avec sa coupe façon coronavirus. Vous voulez aussi nous faire part d'une confidence, eh bien n'hésitez pas, c'est par WhatsApp que ça se passe, vous nous transmettez votre message audio au 079 812 20 20, 079 812 20 20. Rendez-vous demain bien entendu pour un nouveau témoignage, d'ici là, excellente journée.
Merci Mathieu Schaffner. Dans un instant, on passe à la météo. Mathieu, on embrasse toutes les vulgaires brunes.
Les vulgaires brunes. Selon Stéphanie. C'est horrible à dire ça.
C'est horrible.
Ouais, c'est horrible. Moi, j'aurais pas osé, en tout cas.
Non. Vous non plus. Hein. Bon, non. Non. Par contre, j'ai hâte de voir Stéphanie en brune.
Je ne sais pas si on peut dire qu'on a hâte.
Ouais. Je ne sais pas ce qu'elle pire, le virus ou voir Stéphanie en brune. Ouais. Mathieu, bel après-midi.
À vous aussi, Jérôme. Merci.
Du soleil et toujours du soleil au programme pour la suite de cette journée avec quelques petits cumulus sur les hauteurs et des maxima compris entre 17 degrés et 22 en plaine, 17 aux Franches-Montagnes. Demain, aucun changement à signaler par rapport au jour précédent. Le soleil continuera à dominer largement toute la journée, sans nuages ou presque. Il fera entre 4 et 5 degrés à l'aube et ça grimpera ensuite jusqu'à 17 degrés à 1000 mètres et 22 en plaine.